j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont surpris de me voir là. Mais rassurez-vous, je suis encore plus surprise que vous. Hein. Donc voilà, quand on m'a proposé de prendre un dimanche, de faire le message, au début je me suis dit c'est bon, au cas où, je demanderai à Joël de me remplacer. Et voilà, mais je ne l'ai pas fait, voilà. Je ne l'ai pas fait, j'ai voulu relever le défi parce que le Seigneur m'a vraiment poussée, poursuivie, je dirais, avec un texte qui m'a accompagnée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le confinement. Et c'est un texte dont je vais partager ce matin ce que j'ai un peu vécu par rapport à ce texte et en tirer quelques enseignements. Pour vous les partager, pour vous aussi vous encourager, je ne sais pas comment mes lunettes, c'est pas pratique, mais bon, c'est pas grave. Pour vous encourager vous aussi par ce texte. Et vraiment, je remercie déjà le Seigneur pour tout ce qui a été dit ce matin par son Saint-Esprit, parce que ça va exactement dans le sens des choses que j'ai reçues, des choses que le Seigneur m'a dites par rapport à ce texte. Et merci Seigneur, parce que là, je ressens des choses que je ne ressens jamais. Voilà, ça tremble un peu de partout, mais ce n'est pas grave. J'espère que c'est, comme les acteurs disent, le trac de l'acteur, celui qui stimule, qui encourage, voilà, pas celui qui coupe tout. Quoi, voilà. Bon, enfin, merci Seigneur. Donc c'est un texte très connu. C'est un des psaumes les plus connus. Un des textes de la Bible le plus connu, je pense qu'on pourrait le mettre dans le top 10. Enfin, chacun a ses tops, hein, mais celui-là, il est vraiment tellement connu qu'il est lu dans les séries américaines. Vous savez, quand il y a des obsèques, on lit toujours le même psaume. Donc c'est pour dire qu'il est vraiment très connu. Il en est presque banal, tellement il est connu. Et on n'entend pas tellement de messages sur ce psaume. J'ai un petit peu cherché sur mon nouvel ami YouTube depuis le confinement, qui m'apporte beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ces nouveaux moyens, enfin ces moyens que tu mets à notre disposition. Et c'est un psaume qu'on connaît pour certains depuis qu'on est enfant, depuis qu'on va à l'école du dimanche. Et des fois on le lit, on le chante, sans faire parfois très attention à ce qu'on lit ou à ce qu'on chante. Alors que c'est un psaume tellement riche et que chaque verset pourrait être un enseignement à lui tout seul, tellement profond, tellement vrai, qui nous parle de notre divin berger, Jésus. Donc je pense que vous avez deviné de quel psaume je veux parler, ce n'était pas très difficile. Le psaume 23, bien sûr. Elsa, tu pourras afficher s'il te plaît le... Je n'ai pas dit bonjour à ceux qui sont chez eux, désolée. Voilà, bonjour à vous. Et donc, je vous propose ce matin de le regarder d'un peu plus près, d'en tirer quelques enseignements, de profiter de ce qu'il nous dit, de ce que ce berger nous dit, de ce que Jésus nous dit et de ce que Dieu nous dit. Donc, c'est, comme je le disais, c'est un texte qui m'a accompagnée pendant le confinement. Déjà un petit peu avant, Dieu avait commencé à me parler par ce psaume et j'ai pu profiter des verts pâturages, du repos des eaux paisibles et des sentiers de justice après être passé par une vallée sombre, très sombre. Et comme vous avez apprécié, je crois, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié de faire le livre Fondation dans le groupe de vie et où on a pu voir et revoir tous ces thèmes qui sont des fondements de notre foi, où on a pu chercher tous les textes qui sont en rapport avec ces thèmes qui font de notre foi. Et ce psaume est aussi un texte fondateur pour notre foi, car il nous parle de l'Éternel, l'Éternel qui prend soin de nous, de Jésus, notre divin berger. Et on sait que plus on veut construire haut, plus il faut creuser profond. Et plus un arbre est beau et grand, et plus il a de fondations profondes et qui vont loin. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, de revoir les bases de notre foi, les bases de notre relation avec Dieu, avec notre berger Jésus, de vérifier l'état de nos racines, comme David l'a dit tout à l'heure, de voir où on en est. Des fois, on sait, on croit savoir où on en est. On s'appuie, on peut s'appuyer sur nos propres forces. Et profitons de ce temps de vacances, les vacances au singulier, où il y a beaucoup moins de choses, où c'est plus calme, que ce soit ici, chez nous ou ailleurs, pour faire un point sur nos racines, pour vérifier l'état de nos fondations, sur notre relation avec Dieu, calmement, tranquillement. Nous prenons le temps, en prenant le temps, Dieu va se révéler à nous. Jésus va nous parler, nous montrer qui il est à nouveau, le berger qu'il est et qu'il veut être pour chacun de nous. Et si nous sommes dans une vallée sombre, regardons à lui. Il va nous guider vers la lumière. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte de ce psaume. C'est un psaume que David a écrit, comme vous le savez. Et David, être berger, eh bien, ça le connaît. Pendant plusieurs années, avant d'être roi, David, ah, merci, j'en avais prévu un, mais c'est vrai que... merci. Donc pendant plusieurs années, avant d'être roi, David a été berger. Et il sait ce que c'est que de s'occuper de brebis, de les connaître chacune. Il a probablement donné un nom à ses préférées. Il connaissait leur caractère, celle qui était obéissante, celle qui était douce, têtue, qui avait du mal à obéir ou à faire confiance, celle qui était fragile. Et on peut se demander au passage, quelle brebis je suis. Et en y pensant, la brebis a plutôt une image positive. Elle est douce, vive, dynamique, volontaire. Elle fait du bon lait pour de bons fromages. Alors que le mouton, c'est différent. Moi, j'entends souvent dans mes cours de gym, « Soyez pas comme des moutons !» Et donc, c'est pour ça que c'est positif d'avoir cette image de la brebis. Et pour revenir à David, il sait aussi ce que c'est de défendre son troupeau contre les loups et les ours. Il s'est probablement battu pour protéger ses brebis, prêt à se sacrifier pour elles. Et il sait de quoi il parle. De plus, il a expérimenté la présence, la bénédiction et le pardon de son Dieu. Il est passé par des vallées très sombres, mais la grâce de Dieu a toujours été là. Le pardon de l'Éternel a toujours été là. Son amour, sa paix, son repos. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et on ne sait pas exactement quand ce psaume a été écrit, mais les commentateurs s'accordent à dire, je rêvais de dire cette phrase, je ne sais pas pourquoi, que c'est plutôt vers la fin de sa vie que David a écrit le psaume 23. Une vie où il a vécu pleinement sa relation avec son Seigneur, son Dieu. C'est un psaume qui est lu au début de chaque sabbat, à la fin de la liturgie, de la lecture d'autres psaumes. Il est lu chaque semaine dans les synagogues. Bien sûr, ce psaume est une préfiguration de Jésus, notre divin berger. Jésus lui-même nous dira qu'il est notre berger dans l'évangile de Jean, et on le lira un peu plus tard. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume, il parle à ceux qui connaissent l'Éternel, de ceux qui font partie de son troupeau. L'Éternel, Yahvé, un des deux noms de Dieu, incarnerait, selon la tradition talmudique, la miséricorde et la grâce dispensatrice de ses bienfaits. Déjà en s'adressant à l'Éternel, David évoque dans le nom de Dieu sa grâce, ses bienfaits, ce Dieu qui est compatissant, miséricordieux, ce berger qui nous conduit est un berger plein de bonté. Et nous avons toutes sortes de besoins. Nos besoins primaires, matériels, la nourriture, la sécurité, le vêtement, le logement. Et Jésus nous dit dans Matthieu 6, on va le lire pour ceux qui ont leur Bible, au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et nous avons aussi des besoins émotionnels. Être aimé, être désiré, être respecté, vivre en paix. Dieu est amour, il est plein de bonté. Combien de textes dans la Bible nous parlent de son amour, de sa bonté? De plus, par son Saint-Esprit, il met en nous son amour, sa joie, sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et quand on est aimé, ça fait toute la différence. Dieu seul peut répondre à nos besoins. Nous sommes aimés, nous sommes en sécurité avec lui. Nous savons qu'il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins matériels. Qui un jour eut faim, vraiment, ou qui n'a pas eu de vêtements pour s'habiller? Même si on ne le réalise pas toujours, tout cela nous vient de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Et comme une brebis que le berger a vu naître, a vu grandir, lui aussi il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. David, dans le psaume 103, au verset 14, dit « Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, que nous venons de la poussière. C'est lui qui nous a créés. Toute notre sécurité est en lui. Toute notre espérance est en lui. Et nous nous sentons aimés. » Combien d'entre nous peuvent témoigner de la fidélité de Dieu, de sa provision, et en particulier dans les finances? Qui n'a pas vécu un miracle dans ce domaine? Nous avons souvent entendu des témoignages de la bonté et de la provision de Dieu. Rien de tout cela ne peut nous être enlevé. Ce sont ses promesses qui sont vraies et amen. Je n'ai aucun besoin que Dieu ne peut combler. Je voudrais apporter une précision. Dans Philippiens 4, au verset 19, il nous est dit « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. » Il ne nous est pas dit que Dieu comblera tous vos désirs. Non, tous vos besoins. Les désirs, c'est autre chose. On doit les soumettre à Dieu pour qu'ils soient selon sa volonté. Mais ça, c'est un autre sujet. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et quand mes besoins sont comblés, je suis rassasiée. Parfois, on oublie d'où viennent toutes ces grâces, les finances, la santé, la nourriture. Comme nous-mêmes, nous pouvons répondre à ces besoins par le travail, par nos revenus, on oublie qu'il est la source de toutes ces choses dans nos vies, que tout nous vient de lui. On peut aussi penser que certains besoins peuvent être comblés par la société dans laquelle on vit, qui peut nous offrir du confort, une forme de sécurité matérielle. Non, n'oublions pas que toute grâce nous vient de Dieu. Et sur ce sujet, David B., un autre David, a fait un bon message sur la reconnaissance, le contentement, et vous pouvez le réécouter sur le site. Apprécions ce que nous avons, tout ce qu'il nous a donné, remercions-le, soyons reconnaissants. Et nous voyons que dès le premier verset de ce psaume, le cadre est posé. L'Éternel, notre Dieu, comble tous nos besoins en Jésus, notre divin berger. Nous avons tout et nous pouvons vivre dans le bonheur de sa présence et de sa grâce maintenant et pour l'éternité. Merci Seigneur. Mais on va retourner au début du psaume. Au verset 2, il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Quelle est l'image idéale pour vous du repos? Être allongé dans un pré avec une herbe bien grasse, près d'un courant d'eau avec le bruit des clapotis? Dormir? Écouter la musique? Lire? Voilà ce que nous propose l'Éternel. Il veut nous donner le vrai repos. Maintenant, il nous invite dans son repos. Une fois que nous sommes comblés, nos besoins sont assurés, nous ne manquons de rien, nous nous sentons aimés, en paix, il nous invite au repos pour nous nourrir, nous parler par sa parole, nous révéler sa grâce pour être dans la confiance de ses promesses. Le repos, c'est cela. Je suis dans la confiance. Je ne fais plus de soucis, car Dieu pourvoit. Non seulement à mes besoins, mais pour ceux qui sont autour de moi, je suis dans la confiance, je suis dans le repos. Dieu lui-même, le septième jour de la création, s'est reposé. Pour le peuple d'Israël, il a institué le sabbat pour un jour de repos. Pour nous aussi, il y a un jour de repos. Nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, pour le louer, être en sa présence, entendre sa parole, vivre la communion fraternelle, et on sait combien c'est précieux après ces semaines de privation. Le repos est important. Être dans son repos, c'est reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il tient tout dans ses mains. C'est reconnaître sa royauté. Dans son repos, on peut lâcher prise. Ne plus vouloir tout contrôler, être dans la confiance. C'est reposant d'être dans la confiance. Il veut voir notre foi en lui, qu'il est notre Seigneur. Parfois, nous nous sentons fatigués, usés, épuisés. Et l'apôtre Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Entrons dans sa présence pour être à ses pieds, pour tout laisser réellement à ses pieds. Et il prendra soin du reste. Dans son repos, il nous délivre, il nous libère. Sa présence agit en nous. Sa parole nous nourrit. Son esprit nous rafraîchit. On reprend des forces. Dans Proverbe 14, au verset 30, il est dit qu'un cœur calme est la vie du corps. Nous sommes dans son repos, près des eaux calmes, où il n'y a pas de tempête, où on est à l'abri. Nous faisons face à un monde tourmenté, difficile, effrayant ou anxiogène. L'Éternel, notre berger, nous amène dans son repos, près des eaux calmes, dans la confiance qu'il tient ses promesses et que ce qu'il dit, il le fera. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans son repos, nous avons été nourris, restaurés, rétablis, guéris, apaisés et consolés. Il nous emmène dans ses sentiers droits, c'est dit dans une autre traduction. L'Éternel, notre berger, veut qu'on laisse notre propre justice, qu'on soit revêtu de sa justice par le Saint-Esprit. Arrêtez d'être conduit par nos émotions, par ce que nous ressentons. C'est vrai que ça peut être difficile parce que c'est un réflexe. Je désire être conduit, être prêt à lui obéir. C'est lui, mon berger, qui marche devant moi. J'entends sa voix quand je suis sur son chemin. C'est ce qu'il veut, comme ça a été dit, un sacrifice agréable. Notre obéissance, que je le reconnaisse comme mon berger. C'est lui qui conduit. Il me veut en communion avec lui, que je lui fasse confiance. Et un berger, quand on voit une image du troupeau avec le berger, on voit que le berger est plus haut que le troupeau. Donc il voit plus loin. C'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. Sa parole nous éclaire, nous guide. Et que le chemin soit large, étroit, escarpé, ou même si nous devons escalader, du moment qu'il marche devant nous. Nous ne craignons rien. C'est à cause de lui, pour lui, que nous marchons, à cause de son nom, pour son honneur. Dans le psaume 8, au verset 2, il est dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom qui est écrit sur nos fronts, nous dit l'Apocalypse. Il trace lui-même le chemin, des chemins qui parfois n'existent pas. Il marche devant nous. Le bon berger nous ouvre la voie. Nous suivons Jésus en tant que disciple dans la justice qui a été payée à la croix. Au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. S'il y a des montagnes, il y a aussi des vallées dans notre vie. Il y a des moments où nous sommes dans les verts pâturages, il y a aussi des moments plus difficiles. Mais notre berger est toujours là. Sa lumière est là, derrière l'ombre. Elle est là, au bout du chemin. On entend sa voix. Et comme David, dans le psaume, nous encourage à le faire, on marche. On ne s'arrête pas. Et si nous avons plus de force, il nous porte. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, pas de la Bible, hein, qu'on a déjà entendue, où l'on voit des traces de pas dans le sable et la trace de deux personnes qui marchent côte à côte. Et au bout d'un moment, on ne voit plus que les traces d'une personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a abandonné? Non. C'est Jésus qui le porte sur son dos. David a fait face plusieurs fois à la mort. Il sait de quoi il parle. Et nous faisons face parfois à la mort ou à une forme de mort. Nous devons traverser des vallées de souffrance, des vallées de larmes, des vallées d'échecs, des géants qui nous effraient ou des vallées de doute. Dans Romains 5, Verset 3. Nous est dit bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et un peu plus loin, au chapitre 8 et au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parfois, dans ces vallées, les ombres déforment la réalité. Jésus est la lumière. Il n'y a point d'ombre en lui, nous dit Job. Et David nous encourage à ne pas regarder à ce qui nous entoure, qui peut nous faire peur, mais à regarder à lui, à celui qui marche devant nous, qui, même dans la fournaise, était là. Et c'est à partir de ce verset que la relation devient plus personnelle, car tu es avec moi. C'est souvent dans des moments difficiles qu'on expérimente cette proximité avec Jésus, notre divin berger. On se sent proche, on se sent comme un agneau dans les bras du berger. Et on pourrait tous témoigner de ces moments difficiles, de ces moments de deuil, de souffrance, de questionnement et même de doute, où la présence de Dieu était tangible, palpable, au-delà de ce qu'on vivait, Dieu était là. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort, voilà ce qui me rassure. Sa houlette, vous savez ce que c'est une houlette? Voilà, enfin là c'est un bâton. Mais la houlette, c'est, voilà, on la voit à côté, c'est ce bâton qui est en forme d'arrondi en haut. Donc, je pense que vous le savez, c'est la houlette, les bergers l'utilisent pour ramener les brebis. Voilà, doucement, ils les prennent par la tête et hop, ils les ramènent dans le troupeau. Et sa houlette est là pour me ramener. Si je m'égare, il veille. Si je me suis égarée, il me ramène. Comme le dit Ésaïe au verset 53. Et Jésus lui-même parle de la brebis que le berger va chercher en laissant les 99 autres dans Matthieu 18. Il se peut qu'on s'égare, qu'on essaye de chercher des chemins par nous-mêmes avec le risque de se perdre. Gardons toujours un œil sur le berger. Ne nous éloignons pas. Restons dans ses chemins, dans son troupeau, où nous sommes en sécurité, qui est aussi l'image de l'Église, où nous sommes en sécurité. Et comme Pierre le dit à Jésus, mais à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et son bâton est là pour nous protéger, nous rassurer. David sait ce que c'est de protéger un troupeau. Il sait ce que c'est de se battre contre les loups, les ours qui voulaient attaquer ses brebis. Il n'a pas hésité pour protéger ses brebis. De même, Jésus n'a pas hésité. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il s'est battu pour nous sauver. Aujourd'hui encore, il nous protège contre les loups, les ours qui veulent nous dévorer, qui en veulent à notre âme. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Au bout de la vallée sombre, alors que nous sommes parfois encore dans l'épreuve, Dieu nous invite à sa table, à prendre un repas de fête en face de nos ennemis, se réjouir en attendant la délivrance avec lui au milieu de notre épreuve, de nos difficultés. Dieu nous dit, viens t'asseoir, mange. Tu es sorti de la vallée, je l'ai vaincu pour toi. Nous avons part à son héritage, nous sommes ses enfants, il a vaincu. Nous fêtons la victoire sur nos ennemis, car Christ a vaincu. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il a vaincu et il nous fait entrer dans sa victoire. Il nous oint d'huile par son Saint-Esprit. Et notre coupe déborde. Il déverse en nous son Saint-Esprit. Il nous appelle à vivre sous son onction, l'onction du Saint-Esprit, qui nous pousse à le louer. L'huile, c'est aussi un onguent qui guérit, qui soigne, comme les bergers le font pour leurs brebis. Et c'est une œuvre complète, intérieure, extérieure, la restauration, qui va jusqu'à déborder. Après la vallée, Dieu fait cette œuvre en nous, son huile qui coule sur nous et nous remplit de son Saint-Esprit, à nouveau, abondamment, jusqu'à déborder. C'est la promesse de notre berger, dit l'Éternel. Il nous restaure, il nous oint d'huile et notre coupe déborde. Et vraiment, pour attester cela, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Après ce passage dans cette vallée, Dieu m'a restauré, m'a rempli son Saint-Esprit à nouveau et fait déborder ma coupe en abondance pour que ses bénédictions coulent, débordent sur les autres. Cette œuvre en nous nous reconnecte avec Jésus, notre berger, qui veut nous emmener dans des chemins nouveaux. La bénédiction dépasse tout ce qu'on peut espérer. Et on va vers la fin, au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelle merveilleuse promesse. Et le verset 6 rejoint le verset 1. Je ne manquerai de rien dans sa présence. En lui, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé le bonheur, la grâce. Même si on sait, comme on l'a vu, qu'il y a des vallées qui peuvent être sombres. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette promesse que je demeure dans sa maison, que je suis sa fille, son fils. Je suis accueillie à sa table. Je bénéficie de sa grâce et de ses promesses. Tous les jours, il pourvoit mes besoins. Tous les jours, je peux être dans son repos. Tous les jours, il m'emmène près des eaux paisibles où je suis restaurée. Je suis sa brebis. Il est mon berger. Il me protège. Il a vaincu pour moi. Il me prépare une place avec lui pour l'éternité. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et aujourd'hui, c'est par la foi, demain, pour l'éternité. En conclusion, et avant de le chanter, ce psaume, jouissons de plus en plus des soins du berger, chaque jour. Entrons dans sa présence. Profitons de ce temps calme pour être sous le regard de Dieu, dans sa présence, pour nous laisser bénir, pour être la brebis qui a part aux grâces du divin berger. Écoutons-le, suivons-le. Et je vous propose de lire donc Jésus, notre berger, dans Jean 10, quelques versets. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Au verset 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et ce matin, on peut peut-être se demander quelle brebis je suis, quelle brebis je veux être. Celle qui est dans le troupeau, qui écoute, qui fait confiance à son berger, ou celle qui veut explorer par elle-même, même s'il y a des risques. Répondons dans nos cœurs. Et j'ai pris vraiment un réel plaisir à étudier ce psaume, à chercher dans la parole de Dieu tout ce qui s'y rapporte. Et j'espère que vous aussi, vous aurez du plaisir à le découvrir ou à le redécouvrir. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Et ainsi qu'à l'équipe de responsables pour leur soutien et leur foi en moi.